Bonjour et éteignez vos portables. Voici votre rendez-vous régulier autour du théâtre et de la danse tous les deuxièmes lundis du mois à 11h et en rediffusion aléatoire sur les 3-8 de la Grenouille. Pour cette première, Éteignez vos portables vous propose de découvrir Alma et France ou l'excursion en montagne. Une pièce écrite et réalisée par le dramaturge tchèque Michal Lasnovský, présentée du 3 au 15 novembre au Théâtre de l'Ange dans le quartier du Panier à Marseille. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre de la manifestation L'Europe intellectuelle en fuite qui sera ponctuée d'une série de conférences et de projections de films documentaires à la bibliothèque L'Alcazar. Alma, c'est Alma Mahler, la veuve du compositeur Gustav Mahler, musicienne et muse des intellectuels allemands et autrichiens. Franz, c'est Franz Werfel, un célèbre écrivain pragois de langue allemande qui fut aussi l'un des porte-paroles de l'expressionnisme. Alma et Franz se marient en 1929 et en 1938, le couple fuit devant les troupes allemandes et se réfugie en France. Pour resituer le contexte historique et politique de cette œuvre, rappelons qu'après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, nombre d'intellectuels centre-européens sont contraints de s'exiler, et c'est dans le sud de la France, plus précisément à Sanary-sur-Mer, que plusieurs d'entre eux s'établiront durant quelques années. On peut citer des personnalités telles que Thomas Mann, Bertolt Brecht, Stefan Zweig, et donc Franz Werfel et son épouse Alma Mahler. L'invasion et l'occupation de la France par les Allemands en septembre 1940 les obligent à fuir encore. Là, Alma et Franz décident de traverser les Pyrénées à pied dans l'espoir de gagner le Portugal et embarquer pour les États-Unis. La pièce raconte cette excursion en montagne vécue par deux figures de l'intelligentsia intellectuelle de l'entre-deux-guerres. Pour l'anecdote, saviez-vous que l'une des histoires les plus connues concernant la vie de Bernadette Soubirous fut écrite par Franz Werfel? Cela peut faire sourire, et pourtant c'est à la suite d'un marché passé avec la petite Sainte de Lourdes, lors de ce fameux passage dans les Pyrénées, qu'il écrivit l'un des plus grands ouvrages sur le miracle de la grotte. L'accord avec la Sainte se résumait à peu près à ceci. « Si tu permets que nous en réchappions, alors j'écrirai un livre sur toi ». Et l'écrivain tint sa promesse. Une fois libre, Franz Werfel et Alma Mahler s'installèrent finalement à Los Angeles, où Werfel connut le succès lorsque Le Chant de Bernadette fut adapté au cinéma. Werfel meurt le 26 août 1945 à Beverly Hills. En 1952, Alma s'installe à New York, où elle reste jusqu'à sa mort en 1964 une importante personnalité de la vie artistique. Voilà pour les personnages et revenons à la pièce qui dure environ 1h15 avec un décor unique. On peut imaginer une clairière, une sorte de champ de bataille où vont se confronter les protagonistes. En fond de scène, un grand tableau représente un paysage assez sombre. Comme une menace et en même temps une porte qui peine à s'ouvrir sur la liberté. En 6 scènes, on assiste ici à une sorte de règlement de compte entre deux êtres en fuite, déchirés par leur destin. Lui, mystique, fantasque, avec une vision enflammée du bolchevisme, en tout cas au début de l'histoire, et elle, fascinée par le fascisme. Au cours de ce voyage, confidences, salves et explications, mais aussi regrets et souvenirs, vont se dérouler sous le regard bienveillant de l'ange gardien de Franz. Ou peut-être bien de Bernadette Soubirous veillant sur eux. En effet, discret mais très présent tout au long de la pièce, l'ange introduit la situation, narre certains échanges entre les deux comédiens, et c'est aussi sur lui que le rideau se baisse. Dans la distribution, on notera aussi la présence et la voix de Philippe Vincenot qui interprète le rôle de Franz.
Bonjour.
Bonjour Michal Lasnowski et bonjour Frédérica Smetana. Alors je suis ravi de vous accueillir dans les studios de La Grenouille pour nous parler de votre création. Je rappelle aux auditeurs que vous, Michal, vous êtes l'auteur et metteur en scène de la pièce et que vous, Frédérica, vous êtes comédienne, vous interprétez Alma et que vous avez également participé à la traduction du texte. Tout d'abord, je m'adresse à vous, Michal. Pourquoi vous êtes-vous penché sur cette histoire et notamment sur ces deux personnages alors qu'il y en avait de nombreux autres aussi célèbres dans cette fuite? Je pense par exemple à l'auteur Bertolt Brecht, aux écrivains Thomas Mann ou encore Stefan Zweig. D'autant que, il me semble, lorsque Alma et Franz fuient Sanary pour les Pyrénées, ils ne sont pas seuls. Alors pourquoi avoir isolé ces deux personnages?
Déjà, il faut dire que Franz Werfel est un Pragois. Il est né à Prague et moi je suis un Pragois aussi. Donc il y a ça déjà, je pense que c'était la première décision parce que Franz Werfel, en fait je dois dire que j'ai commencé par Franz Werfel. Et on a travaillé beaucoup sur les auteurs pragois du début du XXe siècle parce qu'à l'époque Prague déjà est une ville culturelle de plusieurs cultures. On peut dire de la culture tchèque, culture allemande, culture juive qui se mélangeait, dont Franz Kafka, ami de Werfel, et les gens, d'autres personnes très intéressantes. Et donc Werfel, c'était quelqu'un qui m'était très proche, comme auteur déjà aussi. Et c'était quelqu'un qui a vécu à Prague, et après il est parti à Vienne, là il a connu Alma Mahler, et c'était toute une histoire qui a commencé. Je les ai suivis jusqu'aux Pyrénées.
D'accord, mais uniquement tous les deux, donc sans par exemple, je crois, les deux fils de Thomas Mann avec lesquels ils sont...
Ah oui, il y avait c'est une histoire passionnante parce que Marseille est devenue une plaque tournante justement et qui a sauvé beaucoup de vies, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cultures d'Europe centrale à l'époque, vers 1940. Donc on pourrait écrire plusieurs romans dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui est passionnant et on s'est dit que finalement, déjà en 1940, Marseille était capitale européenne, on peut dire, parce qu'il y avait plein de gens qui passaient par ici.
Et vous, personnellement, vous considérez-vous comme un auteur et un homme de théâtre engagé?
En fait, oui, et j'aime bien, parce que le théâtre, je pense que bien l'art en général, c'est créé à partir de la métaphore, donc jamais en direct. Donc, en comparaison avec la politique, on ne parle pas de la politique, on ne parle pas directement des choses, mais on parle dans images, idées, pensées, etc. Donc, je pense que chaque auteur est engagé, chaque auteur prend sa responsabilité.
Et c'est ça quand même que vous voulez faire ressortir à travers ce spectacle.
Justement, parce que là, je pense que c'est vraiment un spectacle qui s'engage dans la question de liberté de la pensée.
Que reste-t-il de cette tradition qu'on appelle mittel-européenne, de sa culture et de ses représentants? Et quel lien aussi peut-on faire entre les sombres raisons politiques de l'époque et les destins de ces intellectuels juifs?
Justement, parce que cette période-là, avant 1940, on peut dire, début du XXe siècle, était tellement riche intellectuellement dans le cadre de la création à Vienne, comme à Prague, comme à Berlin. Donc, c'est ce qu'on appelle le Mitteleuropa. Et il y a d'autres villes intéressantes et d'autres artistes qui
participaient. Mais c'était les trois villes.
Là, c'était les trois villes principales de la Mitteleuropa. Et évidemment, il n'en restait pas beaucoup. Parce que c'était déjà la première vague nazie qui a chassé la plupart de ceux qui ont participé à cette création culturelle et intellectuelle aussi. Et après, il y avait cette période, disons, communiste, qui a encore fait disparaître plein de choses. Et justement, cet échange avec l'Ouest de l'Europe, qui était normal en Europe, en Mitteleuropa avant, parce que c'était nourri aussi par Paris, etc. Donc, il y avait un dialogue. Et le dialogue est devenu un peu monologue ou bien dialogue des sourds.
Mais vous avez travaillé à partir de quels documents et de quelles informations pour construire ce texte ?
Justement, c'était surtout les gens autour, ou bien les informations autour de Franz Werfel. C'était pourquoi aussi j'ai choisi ce personnage. Mais je me suis rendu compte qu'il y a autour plein de gens qui ont passé par, soit par ici, mais par d'autres aussi voies. Donc, la plupart des auteurs juifs de Prague. Donc, il fallait, et de Vienne aussi.
Frédérica, vous avez participé à cette traduction, donc comment vous l'avez abordée ?
En réalité, une première traduction a été effectuée par Maxime Forest, donc quelqu'un qui a vécu à Prague quelques années et qui a fait une thèse d'ailleurs sur le genre. Et comme toute traduction, elle était très bien, enfin pas forcément comme toutes, mais en tout cas elle était très bien littérairement. Mmh. Et ce qu'on a essayé de retrouver, c'est le langage du théâtre.
C'est-à-dire que vous l'avez adapté ?
Pas tout à fait, mais en réalité, chaque auteur a un langage, a sa langue. Donc, un traducteur a inévitablement aussi sa propre langue. Et là, ce qui était tout à fait intéressant et ce qui est rare, c'est de pouvoir reprendre le texte original, donc en tchèque, et de pouvoir adapter le langage utilisé par l'auteur en français. Donc ça a pris un peu de temps parce que je pense qu'on a travaillé une semaine à Prague, mais collectivement hein, on
s'est ça
avec Philippe Vincenot, Michal, moi, et ça c'était vraiment étonnant, c'est de retrouver en fait la langue de départ dans une autre langue. Voilà, donc ça c'est un travail quand même qui a pris pas mal de temps et qui a permis justement de retrouver vraiment l'essence même de l'écriture. Traduite.
Est-ce que la traduction vous a aidé dans l'interprétation du rôle d'Alma ?
Je crois que ce travail sur la langue a été essentiel par rapport à l'interprétation des personnages et même du sens même du texte. Donc il fallait vraiment trouver le mot qui colle vraiment au texte original, à ce qu'on veut faire passer aussi. Et effectivement, ça a été vraiment important pour nous deux, autant pour Philippe qui interprète Franz Werfel que pour moi qui essaye de jouer Alma.
Pour la mise en scène, je voudrais savoir pourquoi vous êtes resté dans une forme de sobriété et pourquoi vous n'avez pas cherché à donner peut-être plus de relief à ces deux personnages hors du commun. Pourquoi vous les avez laissés comme des quidam en quelque sorte, en fuite ?
Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans l'histoire. C'est, je dirais, les idées, mais c'est pas les idées toutes faites. C'est les idées qu'on voit naître. Parce que les deux, c'est des créateurs. Et Alma aussi, qui s'appelait aussi une muse.
Ce sont deux grandes personnalités.
C'est vraiment quelqu'un qui était très riche en création, ou bien qui comprenait très bien la création, qui était très proche à la création. Et donc, voir ces personnes suivre, pour être au même moment, dans leur pensée un peu. Entrer dans les têtes des gens qui sont là dans cette situation absurde, exceptionnelle. Et ces personnages qui sont vraiment très créatifs. Donc je pense que le reste, je trouve que c'est tout ce qui est description, autre image, c'est quelque chose de plus qui pourrait plutôt affaiblir l'intensité de la pensée, de ce choc d'idées.
Vous voulez dire le fait, par exemple, de mettre plus en exergue leur personnalité, leur extravagance, parce que ce sont des personnages quand même mythiques.
Oui.
Ce que je pense, c'est qu'en fait, en réalité, les deux personnages sont quand même aussi un peu un prétexte pour parler de quelque chose,
oui.
Au-delà d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense que ce serait un peu absurde d'essayer de jouer Alma Mahler. D'abord parce que je crois que je ne ressemble pas du tout. Philippe ne ressemble absolument pas à Werfel. Donc déjà, a priori, c'est raté. Mais je crois que le texte est surtout, porte surtout sur un questionnement par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à une époque, et par rapport justement à l'absurdité de voir toute cette intelligence, tout cet art condamné à mort au départ, et devant s'enfuir. C'est-à-dire que presque la question qu'on a envie de poser, c'est que serait l'Europe aujourd'hui si ces gens-là n'étaient pas partis? Je pense qu'il y a un vrai questionnement par rapport à ça.
C'est vraiment l'histoire qui est au cœur de la mise en scène.
Plus que les personnages. Ouais. Les personnages sont là, effectivement, ils ont leur... Il y a un peu de leur personnalité qui transparaît, mais on se fiche un peu de l'histoire, entre guillemets, hein, d'Alma Mahler ou de Franz Werfel en tant que personnage, parce qu'ils sont représentants de centaines, voire de milliers d'autres.
Pourquoi avoir choisi des personnalités hors du commun?
Oui, mais parce que c'est justement, c'est tellement absurde que ces deux personnes se retrouvent sur un flanc des Pyrénées. Je les ai vus un peu comme l'hôte qui se retourne pour voir ce qui reste derrière lui. Et il y a ça, c'est vraiment disparition, une catastrophe qui a complètement envahi leur monde à eux, qui ne renaîtra jamais dans la même forme. Donc c'était vraiment un moment crucial. Donc c'est aussi une image.
Et pour la musique?
La musique donc a été composée par Gilbert Gandil, qui est un compositeur avec qui on a déjà travaillé plusieurs fois, qui est à Lyon. C'est parti de Prague, puisque la toute première étape s'est faite à Prague, donc avec Gilbert et avec Philippe. Et c'est ensemble, c'est en écoutant le texte et en se parlant que Gilbert a fait ses propositions. Donc à la fois ses propres créations musicales et à la fois des emprunts à des auteurs, à des compositeurs comme Schoenberg qu'on entend à un moment donné, ou un Lied d'Alma Mahler. Voilà, donc c'est un mélange entre sa propre création et des compositeurs qui appartiennent évidemment à cette histoire-là.
Comme je l'ai souligné en présentant votre spectacle, Alma et Franz s'inscrivent aussi dans le cadre de l'Europe intellectuelle en fuite, au cours de laquelle d'ailleurs on pourra assister à une série de conférences et documentaires, un écho à la pièce. Comment s'est passée votre rencontre avec Marseille?
Alors c'est effectivement une jolie question parce que c'est vraiment une rencontre. En réalité, l'histoire avec Marseille est liée à des gens évidemment qu'on connaît, qui nous sont très proches, dont Vladislav Norko, Cosmos Coley, qui est venu s'installer à Marseille. Donc comme ça fait très longtemps qu'on se connaît, qu'il est venu à Prague pour la première fois il y a une quinzaine d'années avec un de ses spectacles, et que depuis, voilà, c'est vraiment une amitié et puis une proximité, on va dire, artistique. Donc ça s'est trouvé être lié. Pareil avec Richard Martin qui travaillait avec lui, et donc pareil qu'on a rencontré. Et donc cette espèce de relation s'est poursuivie jusqu'à Marseille, justement. Et puis, comme toujours, on rencontre d'autres personnes. Et l'histoire de ce projet est née tout simplement de la rencontre avec d'autres personnes, dont Henri Dumollier, qui était directeur de l'INA à Marseille et qui est aussi président de l'association des Sept Portes, qui est domicilié d'ailleurs à La Friche, à qui j'ai parlé de cette histoire-là et qui m'a dit « Mais il y a quelque chose à faire autour de ça, c'est formidable. » Il en a parlé à Maurice Vincent, du théâtre de l'Anche. Et l'histoire,
et voilà.
Et l'histoire est partie de ces rencontres et de ces amitiés avec des personnes qui sont sur Marseille.
Pour terminer, j'aurais bien aimé aussi que vous expliquiez aux auditeurs ce qu'est la compagnie Golem, puisque vous évoquiez tout à l'heure votre présence à Grenoble, je crois.
Alors, la compagnie Golem, effectivement, est née à Prague. Alors, c'est vrai qu'on a un parcours un peu atypique, puisque donc la compagnie a été créée, on a créé avec Michal, il y a une dizaine d'années à Prague. Donc, on a joué beaucoup, évidemment, à Prague. Et puis, on a très, très vite joué en France, parce que l'idée, quand même, pour nous, c'était de reconstruire des ponts et des échanges entre des artistes de l'ex-bloc de l'Est, en l'occurrence tchèque, et français. Michal était venu en France, et francophone. Donc il y avait ce lien, moi je suis française quand même. Et donc très vite le lien s'est recréé et on a rapidement joué en France. Donc les choses ont évolué de telle manière que rester un pied d'un côté, un pied de l'autre, quand on commence à avoir des projets un peu importants, devient assez difficile. Et que ça fait donc 4 ans que la compagnie est en fait domiciliée dans l'Isère, dans le sud Isère, donc à la frontière de PACA. Ça aussi, c'est une proximité assez naturelle. Et donc poursuit davantage son travail ici.
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer cette pièce en tchèque?
Non, c'était pas joué en tchèque pour l'instant, mais en même temps, je suis vraiment ravi de pouvoir la jouer à Marseille, faire la création finalement de la version, disons, définitive à Marseille, parce que là, c'est quelque chose pour ce thème d'exceptionnel. Et justement, parce qu'on voit que l'histoire de Varian Fry et des autres, là, autour de ça, c'est tellement riche, c'est tellement nourrissant, et ça, pour moi, par exemple, ça me permet de découvrir encore d'une manière un peu différente, beaucoup plus riche, le thème. Donc j'espère qu'on va continuer et développer encore cette pièce, peut-être avoir une suite, d'autres pièces.
Alors,
et
après
d'autres
Marseille,
projets.
D'autres projets après Marseille, est-ce que vous envisagez de la présenter ailleurs? Est-ce que vous avez déjà une programmation?
De toute façon, oui, bien sûr, la pièce va poursuivre sa route, mais je voudrais juste revenir sur le projet en fait de l'Europe intellectuelle en fuite, puisque donc sur cet automne, on a à la fois le spectacle, mais aussi donc les projections à l'Alcazar du 12 au 14.
Qui seront annoncées. Hein.
Voilà, et ça c'est vraiment important parce que ça complète vraiment le spectacle, et le projet va se poursuivre pour Marseille 2013. Donc on va continuer à travailler sur ce thème en plus grand, on va dire, donc avec d'autres volets, avec justement des colloques, avec des expositions, avec des concerts, toujours autour du thème. Donc on reprendra certainement Alma et Franz.
Mais de la même manière, c'est-à-dire que la pièce elle-même n'évoluera pas.
La pièce n'évoluera pas, mais il y aura sans doute un autre spectacle qui va venir prolonger celui-là.
Ah,
justement, une nouvelle création dans ce cadre-là. Donc on ne sait pas encore tout à fait ce que ce sera. Mais voilà, ce sera encore des prolongements supplémentaires pour dans le cadre justement de Marseille 2013. D'autres surprises, voilà.
Eh bien, merci à tous les deux pour votre présence parmi nous et nous vous souhaitons bonne chance dans cette aventure. À bientôt.
Merci beaucoup.
Alma et Franz ou l'excursion en montagne est présentée du 3 au 15 novembre au Théâtre de l'Anche à Marseille, mardi, vendredi, samedi à 20h30, mercredi et jeudi à 19h et dimanche 15 novembre à 16h. Réservation au 04 91 91 52 22. Autour du spectacle, notez également plusieurs rendez-vous en entrée libre à la bibliothèque L'Alcazar à Marseille. Une lecture musicale à l'occasion de la commémoration des 20 ans de la Révolution de velours en République tchèque, le mardi 17 novembre à 18h, et des projections de films documentaires les 12, 13 et 14 novembre. Vous pouvez consulter tout le programme de ces rencontres sur le site du Théâtre de l'Anche, www.théâtredelanche.info. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur le site de La Grenouille, en tapant « Éteignez vos portables ». Bon spectacle et belle découverte !